France Inter.
Le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire du 13-14. La lumière est revenue, mais les habitants restent dans le flou. Comment expliquer cette méga panne de courant en Espagne et au Portugal? La piste de la cyberattaque est écartée, mais on verra que les questions restent nombreuses. Et sur place, on commence à mesurer les conséquences, notamment économiques. On sera à Barcelone et à Madrid dans une minute. On verra aussi ce que prévoit la France pour éviter un tel scénario. L'actualité, c'est aussi cette élection canadienne scrutée dans le monde entier. Le premier ministre Marc Carney remporte le scrutin législatif et son premier discours écouté est très offensif contre Donald Trump.
Notre vieille relation avec les États-Unis, notre relation basée sur une intégration stable est terminée. Ce sont des tragédies, mais c'est aussi notre nouvelle réalité. On a dépassé le choc de la trahison américaine, mais nous ne devrions jamais oublier la leçon.
Alors, faut-il en comprendre qu'il va devenir un allié des Européens sur le continent nord-américain? C'est en tout cas l'espoir à Bruxelles, où l'on va retrouver notre correspondant. Comment lutter contre l'invasion des petits colis en provenance de Chine? Le gouvernement dévoile une série de mesures concrètes. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Et la France propose de mettre en place une taxe.
Oui, des frais de quelques euros que paieraient les plateformes pour financer les très coûteux contrôles de douane. En fait, plus que des mesures françaises, le gouvernement a surtout fait des propositions pour se coordonner avec nos voisins. Vous l'entendrez.
Voilà tous les détails avec vous, Luc, dans un instant. Les Français ne mangent pas suffisamment de fruits et légumes, surtout les hommes, surtout les jeunes. C'est le résultat d'une étude dont nous allons parler avec notre invité dans les prochaines minutes. On parlera aussi des dons qui sont essentiels pour soutenir la recherche médicale. Ce sera à 13h30 avec nos invités. On parlera notamment des cancers rares. Et on attend vos questions 01 45 24 7000. Et puis on prendra la direction de Londres où la tension monte à quelques heures du match Arsenal-PSG en Ligue des Champions. Voilà pour le programme. C'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Des passants qui sortent la lampe de poche pour tenter de s'orienter dans des rues plongées dans le noir, des trains arrêtés, des voyageurs bloqués, des embouteillages et puis des communications devenues extrêmement difficiles. Voilà pour les images surréalistes en provenance de deux pays bouleversés par une gigantesque coupure d'électricité. Alors aujourd'hui, la situation est quasiment revenue à la normale en Espagne comme au Portugal, où l'on commence à réaliser ce qui s'est passé et puis à mesurer aussi les conséquences. Bonjour Erwan Chassin.
Bonjour Céline, bonjour
vous
à tous.
Vous êtes en direct de Barcelone et c'est le cas par exemple dans les restaurants.
Oui, si vous êtes là à Barcelone à la pause déjeuner, vous n'aurez aucun mal à trouver un restaurant ouvert. Vous ne verrez pas non plus les conséquences de cette énorme coupure de courant. Pourtant, les pertes sont bien là, explique Andrea, ce restaurateur.
Tout le système de réfrigération s'est complètement effondré. Ça a entraîné des problèmes avec les produits stockés dans nos frigos ou nos vitrines. Surtout ceux qui sont très périssables, qui se détériorent rapidement.
Mais cette crise très exceptionnelle lui a servi de leçon. Il voudrait que ça serve aussi de leçon aux autres face au tout numérique, pour commencer.
Par exemple, le fait d'utiliser presque exclusivement la carte bancaire, on ne transporte plus d'argent liquide, et là on voit que ça peut poser un gros problème.
Mais il n'est pas le seul sur cette grande avenue à raisonner comme ça. Emilio, lui, va réfléchir à réorganiser sa cuisine pour anticiper.
Eh bien oui, j'aurais agi différemment. Par exemple, à partir de maintenant, ce que je ferais, c'est d'installer des générateurs dans l'usine. Nous avons une cuisine centrale. Eh bien, il suffit d'imaginer que cette situation ait duré plus d'une journée, cela aurait été un problème bien plus grave.
Et il estime quand même avoir perdu 10% de sa marchandise en l'espace d'une après-midi sans électricité.
Merci à Juan Chassin en direct de Barcelone grâce aux moyens techniques de Benjamin Troncin. Au sein de la population espagnole, on vient de l'entendre, on tire les leçons, on s'interroge aussi sur les causes de cette panne. Mais on est d'abord soulagé de retrouver une vie normale après le chaos d'hier. Et c'est ce que vous constatez, Valentin Dunat. Vous êtes vous à Madrid?
Dans les rues de la capitale espagnole, la plupart des magasins sont ouverts, la circulation est fluide, le métro fonctionne. Le transport ferroviaire, lui, va revenir à la normale dans la journée. Et pour David, touriste mauricien, c'est...
Comme si de rien n'était, ouais.
Comme si de rien n'était.
Ouais, c'est ça, il n'y a aucune séquelle. Le bureau de change est ouvert comme d'hab, le supermarché comme d'hab, tout est rempli. C'est comme si rien ne s'est passé.
Ça vous surprend?
Ouais.
Pourquoi?
Juste parce qu'en termes de... C'était assez conséquent hier, parce qu'il y avait pas mal de personnes à côté d'une radio, il y avait une personne à une radio, et là, rien, tout le monde travaille, comme si rien n'était. Ouais, c'est un peu bizarre.
Ce qui est saisissant, c'est donc le contraste entre hier et aujourd'hui, avec désormais l'envie de comprendre ce qu'il s'est passé. Yolanda travaille dans un hôtel.
I want to know what happened, yes.
Je veux savoir ce qu'il s'est passé, oui.
pour faire attention, pour être prête si ça arrive à nouveau. Par exemple, j'ai un bébé et hier, j'étais très inquiète et je me suis demandé comment je fais si j'ai épuisé toutes les réserves de lait du bébé.
Et pour répondre à cela, sur les causes du blackout, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez ne s'est pas risqué à donner une explication. 24 heures après, le mystère reste entier.
Merci beaucoup Valentin Dunat depuis Madrid. Effectivement, le gestionnaire du réseau espagnol écarte la piste d'une cyberattaque, mais ne donne pas d'explication. Le groupe indique simplement qu'il y a eu une forte oscillation des flux de puissance sur le réseau électrique, accompagnée d'une perte de production très importante, qui a entraîné la déconnexion du système espagnol, mais toujours pas d'explication sur ce qui s'est passé. Beaucoup de questions, donc, et un grand sentiment de vulnérabilité quand tout s'éteint. Est-ce que ça veut dire que tout s'arrête? Eh bien, pas forcément. On va voir ça avec vous, Cécile Bidot. Bonjour.
Bonjour.
En tout cas, la France travaille justement sur des scénarios comme celui de l'Espagne. Comment réagir en cas de coupure, en cas de tempête? Est-ce que ça veut dire que des plans B sont prévus?
Oui, sachant que le plan A, c'est bien sûr d'éviter le blackout total. Toutes les procédures mises en place chez nous visent à ne pas aller jusqu'à la panne sèche. RTE, le gestionnaire du réseau, parle de barrière de défense. Alors d'abord, en cas de problème technique, isoler la zone critique du reste du réseau pour que la panne ne se propage pas. Et puis, il y a ce qu'on appelle les mesures de délestage. Couper le courant à certains endroits pour concentrer l'approvisionnement sur les lieux stratégiques, comme les services de santé, les infrastructures de défense ou de communication. Il existe une liste d'opérateurs d'importance vitale, mais elle est tenue secrète. On sait juste qu'il y en a 250. Si l'on allait jusqu'à la coupure totale, comme en Espagne, il y a effectivement des plans B. Les endroits stratégiques dont je viens de parler disposent de groupes électrogènes qui fonctionnent avec du carburant. C'est le cas des hôpitaux, nous dit l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui peuvent aussi mettre en route des batteries autonomes pour alimenter les installations médicales critiques. Le cas de Radio France également, qui doit pouvoir continuer à vous informer sur la situation.
Merci Cécile Bidot pour toutes ces précisions. Service économie de France Inter et de son côté, la Commission européenne indique qu'elle tirera les leçons de cette panne électrique d'une ampleur inédite. Un clic sur une appli plutôt qu'un achat dans un magasin. Les habitudes des consommateurs et de vous peut-être évoluent depuis quelques années avec des conséquences dont on ne mesure pas toujours l'ampleur. Alors voilà un chiffre pour tenter de s'en rendre compte. L'année dernière, l'Europe a reçu 4,5 milliards de petits colis en provenance de la Chine, 800 millions rien que pour la France. Des vêtements, des bibelots, des livres achetés sur des plateformes chinoises de e-commerce, Chine, Temu par exemple. Et le gouvernement français craint que ça ne devienne une véritable invasion au cours des prochaines années, surtout si le marché américain est bouché en raison de la mise en place des droits de douane. Luc Chemelin, on vous retrouve en direct de l'aéroport de Roissy où 4 ministres ont fait le déplacement ce matin, notamment le ministre de l'économie Éric Lombard pour annoncer des mesures. Et la France, Luc, plaide pour une politique au niveau européen.
Ah oui, car le nerf de la guerre, c'est ce fameux seuil de 150 euros en dessous duquel les colis sont exemptés de droits de douane dans l'Union européenne. La France aimerait y mettre fin maintenant, mais il faut se coordonner d'abord au niveau européen pour éviter que les colis inondent ensuite nos voisins. L'objectif, c'est donc de supprimer ce seuil, mais pas avant 2028, ce qui dénote tout de même une certaine impuissance. En attendant, il faut quand même agir. Le gouvernement souhaite ainsi, dès l'an prochain, imposer dans l'UE des frais de gestion pour financer les contrôles. Explication d'Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics.
Ces contrôles demandent des moyens humains, des moyens technologiques, des ressources. Et je ne souhaite pas, nous ne souhaitons pas que les contribuables français aient à payer pour contrôler ces produits qui nous envahissent et que donc nous fassions payer aux importateurs, aux plateformes, un petit montant forfaitaire sur les colis. On parle de quelques euros. Ça irait à la capacité donnée à chaque service de douane nationale.
Mais là encore, pour que la mesure soit efficace, il faut qu'un maximum de pays y adhère, ce qui n'est pas encore fait. Vous l'aurez donc compris, difficile de limiter l'envoi massif de colis. La France compte donc renforcer les contrôles une fois qu'ils sont arrivés sur notre territoire. Car quand ils sont passés au crible par les douanes, 94% des produits sont non conformes et 66% d'entre eux sont même dangereux, notamment les cosmétiques. Il y aura donc désormais trois fois plus de contrôles, orienté notamment vers les plateformes étrangères, notamment chinoises. Le gouvernement en appelle également à la responsabilité des consommateurs avec ce message. La régulation dépend aussi de l'attitude de chacun.
Luc Chemelin depuis l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle grâce aux moyens techniques de Benjamin Reyes. Et justement, puisque l'on parle des conséquences de la politique américaine, allons au Canada, où il y a quelques mois, le scénario semblait écrit. Les conservateurs étaient donnés grands favoris des élections législatives. Sauf que Donald Trump est passé par là. Ses droits de douane sa proposition d'annexer le Canada ont chamboulé toutes les prévisions. Et c'est le candidat du camp libéral qui a remporté le scrutin hier. Il s'appelle Marc Carney, c'est le premier ministre en poste. Et il a un parcours plutôt atypique, Étienne Monin, vous êtes sur place.
Marc Carney est avant tout un financier. Il est passé par Goldman Sachs après avoir fait Harvard et Oxford. Il a été gouverneur de la Banque du Canada en 2008 au moment de la crise financière. Il a dirigé la Banque d'Angleterre pendant 7 ans au moment du Brexit. C'est donc un habitué des crises. Cela a été l'un des principaux arguments de campagne, mais il a aussi côtoyé le monde politique. Il a été conseiller de l'ancien Premier ministre Justin Trudeau pendant le Covid, puis il est resté conseiller financier jusqu'à la dissolution en janvier dernier. Mais pour les Canadiens, il reste encore un inconnu. Son premier voyage comme Premier ministre en mars dernier a été en Europe. Il a notamment rencontré le président Macron pour renforcer, a-t-il dit, les liens entre des alliés historiques et fiables. Le grand vainqueur de l'élection fédérale souhaite des liens plus forts avec l'Europe dans les domaines économiques, sécuritaires et diplomatiques. Il est également partisan d'un soutien fort vis-à-vis de l'Ukraine.
Alors parlons-en justement de l'Europe, puisque le scrutin était suivi avec beaucoup d'attention à Bruxelles. Vous vous trouvez Pierre Benazé, bonjour.
Bonjour.
Alors après le résultat du vote, Marc Carney a promis de tenir tête à Donald Trump. Le Canada, dit-il, ne doit jamais oublier la trahison américaine, ce qui semble satisfaire les Européens. Emmanuel Macron parle de se serrer les coudes. Et Ursula von der Leyen aussi salue son élection.
Oui, elle se félicite, elle y voit un renforcement à venir du lien entre l'UE et le Canada. Elle y voit surtout la perspective de promouvoir le multilatéralisme et le commerce, puisque Marc Carney a parlé de chercher des débouchés en Europe. Pour l'Union européenne, l'agressivité de Donald Trump à l'encontre du Canada a favorisé le candidat le plus à même de renforcer les liens avec l'Europe. Non seulement Marc Carney a été gouverneur de la Banque d'Angleterre, il n'a pas caché à l'époque ses craintes liées au Brexit, mais surtout, depuis qu'il a pris la succession de Justin Trudeau en mars, il a rompu avec la tradition des premiers ministres canadiens. Ils vont d'habitude à Washington pour leur premier voyage officiel. Et non seulement il ne s'y est toujours pas rendu, mais il a préféré un déplacement à Paris et à Londres pour l'Union européenne qui veut renforcer et multiplier ses partenariats économiques à travers le monde. C'est peut-être le retour en grâce de l'accord économique et commercial global avec le Canada, connu aussi avec l'acronyme anglais CETA. Il n'est appliqué que de manière partielle puisqu'un tiers des pays de l'UE ne l'ont toujours pas ratifié. Et on n'en est pas encore, en revanche, ici à envisager sérieusement l'idée émise outre-Atlantique d'une adhésion du Canada à l'Union européenne.
Merci Pierre Benazé, correspondant de France Inter à Bruxelles. Et parmi les autres réactions, citons celle du chef de l'OTAN, qui espère travailler à une alliance plus forte et plus juste avec le Premier ministre canadien, et celle du président ukrainien, qui se dit convaincu que le résultat de cette élection va renforcer le partenariat entre son pays et le Canada. Alors Donald Trump, on vient de le voir, a bouleversé la politique canadienne, mais là aussi, en 100 jours maintenant de mandat, a créé des inquiétudes un peu partout dans le monde, par ses positions géopolitiques, par sa guerre commerciale, mais aussi par les coupes budgétaires dans les programmes d'aide à l'étranger. Exemple avec l'ONU SIDA, qui estime qu'il pourrait y avoir entre 3 et 6 millions de décès dus au SIDA d'ici 2030, si les financements continuent à chuter. D'où cette mobilisation qui était organisée à Paris ce matin par l'organisation Aide. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Vous étiez sur place, des militants se sont allongés sur le sol, place de la Concorde, juste sous les fenêtres de l'ambassade des États-Unis.
Oui, il est tout juste 8 heures, une quarantaine de militants convergent, ils s'allongent sur le trottoir et la chaussée. Sur leur banderole, on peut lire « Sida, votre avarice tue », car Donald Trump a suspendu depuis 3 mois le programme d'aide au développement PEPFAR. Il vient en aide aux malades du sida, résultat 40 000 morts de plus décomptés en seulement 90 jours.
L'avarice des pays riches a une conséquence, elle tue toutes les 3 minutes.
Avarice et injustice, États-Unis, complices.
La circulation est coupée quelques minutes. Vincent Leclerc de l'association Coalition Plus, lui-même séropositif, vit normalement grâce au traitement. Il brandit un fumigène rose, une scène qui rappelle les mobilisations d'ACT UP dans les années 90.
C'était très important pour moi d'être en solidarité avec mes camarades vivant avec le VIH dans les pays du Sud qui vont se retrouver du jour au lendemain sans traitement. Honnêtement, en 2025, je ne pensais pas me dire que peut-être dans quelques années, on verra les mêmes images qu'on voyait dans les années 80 de ces corps amaigris parce que les les personnes n'ont pas de traitement et évoluent en stade sida.
Car c'est bien un risque de reprise de l'épidémie que dénonce Léo Dogneau de l'association AIDE.
Ça va aussi toucher l'Europe et la France. C'est le principe de sécurité sanitaire. Personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas. La communauté internationale s'était donné l'horizon 2030 pour mettre fin au VIH-SIDA. Là, on voit qu'on s'en éloigne. C'est un abandon de la politique internationale, bien sûr.
Et le gouvernement français est aussi visé avec une baisse de l'aide au développement dans le budget 2025.
Merci Rémi Brancato pour ce reportage.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Un butin estimé à 9 millions d'euros, 400 journalistes accrédités venus du monde entier au procès des braqueurs de Kim Kardashian. Les chiffres sont très impressionnants, mais les profils sont aussi très intrigants et c'est justement de cela dont on parle depuis ce matin à la Cour d'assises de Paris. Bonjour Charlotte Piré.
Bonjour.
Les juges ont entamé l'examen des personnalités des 10 accusés pour tenter de comprendre le parcours de ceux que l'on a surnommés les papy braqueurs.
Oui, chauve, chemise à manches courtes, Younis Abbas, 71 ans, raconte avec bagou et à toute allure ses 47 ans de mariage, 2 fils, 4 petits-enfants. Si vous pouvez parler moins vite, l'invite le président. Des sténotypistes retranscrivent les débats pour un autre accusé, malentendant. Je vais essayer, s'excuse l'homme à la barre, mais c'est mon bras qui m'entraîne, ce bras droit dont il tente vainement de contenir les forts tremblements en le serrant contre lui. J'ai la maladie de Parkinson, je ne peux plus travailler, regrette cet ancien mécanicien. Le travail semble comptez pour vous, relève le président. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un travailleur bascule régulièrement dans la délinquance? Car Younis Abbas est encore mineur lorsqu'il est condamné pour la première fois pour vol de coffre-fort dans des supermarchés. Puis ce sera le maquillage de voitures pour des hold-up, trafic de stupéfiants ou encore vol à main armée dans une banque. Des moments de faiblesse où j'avais besoin d'argent, où je me dis je ne vais pas rater cette opération, ça peut me mettre à l'abri. Mais pour la première fois, assure-t-il, le braquage de Kim Kardashian lui a ouvert les yeux. Avant, je ne pensais pas aux victimes, mais là, j'ai découvert que derrière le sac à main de la dame, il y avait un traumatisme. Alors, Younis Abbas l'a bien compris, s'il est libre sous contrôle judiciaire à ce procès, il s'attend à une sanction. On n'est jamais préparé, mais il va falloir payer les pots cassés.
Récit d'audience signé Charlotte Piré en direct de la Cour d'assises de Paris. Faut-il faire payer aux détenus leurs frais d'incarcération ou au moins leur demander une participation financière? La question est désormais au cœur du débat public. Après les annonces de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux se dit favorable à la mise en place d'un forfait de présence dans les prisons, ou plutôt la remise en place, hein, puisque ce système existait, dit-il, jusqu'en 2003. Et le moins que l'on puisse dire, Claire Flauchel, c'est que c'est une idée qui divise la classe politique.
C'est un clivage gauche-droite. À gauche, les députés ne sont pas pour cette participation des détenus aux frais d'incarcération. C'est une idée qui manque d'humanité, affirme le député écologiste Benjamin Lucas.
Si on demande une participation financière aux détenus, il faudrait d'abord que les établissements pénitentiaires français soient dignes et que peut-être que les choses pour lesquelles on leur fait payer ne soient pas régulièrement pointées du doigt à l'échelle internationale comme étant d'une insalubrité, d'une dangerosité sans nom.
Une proposition démagogique des aussi un député socialiste. À droite et à l'extrême droite, en revanche, l'idée est appréciée. Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national.
C'est normal que ceux qui sont en prison payent une partie de leur logement plutôt que les honnêtes citoyens qui, eux, n'ont rien à se reprocher. C'est ce que veulent les Français, c'est ce que nous proposons depuis longtemps. J'espère que M. Darmanin aura le courage d'aller jusqu'au bout.
C'est tout à fait sensé, dit aussi le député LR Jean-Didier Berger.
D'ailleurs, c'est le rétablissement des frais qui est proposé. Tous les jours qui passent en France, on paye des millions et des millions d'euros pour ces frais d'incarcération, et donc qu'il y ait une juste part prise par les détenus eux-mêmes, ça paraît tout à fait logique.
En effet, jusqu'en 2003, les détenus participaient aux frais d'incarcération selon un décret, mais un décret qui n'était pas appliqué, c'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs juristes.
Des précisions de Claire Flauchel, toujours concernant la politique sécuritaire du gouvernement portée par Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. La proposition de loi pour lutter contre le narcotrafic devrait être adoptée définitivement cet après-midi. Un ultime vote est prévu à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit notamment de créer un parquet national anticriminalité organisée, compétent sur les dossiers les plus graves. Et puis autre proposition de loi qui, elle, est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, celle qui propose de réguler l'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. Elle suscite la vive opposition des intéressés, notamment les jeunes médecins. Plusieurs organisations avaient appelé à des manifestations aujourd'hui un peu partout en France. Vous connaissez forcément ce slogan martelé maintenant depuis des années. Pour être en bonne santé, il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. Slogan très simple, très facile à mettre en œuvre, en tout cas c'est ce qu'on pourrait penser. Mais finalement pas si respecté, c'est ce que montre le baromètre de Santé publique France dont on va parler avec vous, Mounia Yamani, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être en ligne dans le 13-14. Vous êtes la responsable de l'unité de Santé publique France où a été réalisée cette étude. Alors 24 000 adultes ont été interrogés et on voit que seulement 24% des femmes et 18% des hommes suivent ces recommandations. D'ailleurs, comment vous expliquez cette différence très nette entre les hommes et les femmes ?
Il n'y a pas une seule explication, c'est toujours un faisceau. D'abord, il y a une perception, une attitude qui est liée au genre. On a des normes sociales, des stéréotypes qui peuvent influencer les choix alimentaires. Et c'est vrai que la consommation de viande est parfois associée à la masculinité et celle des fruits et légumes plutôt à une féminité.
Donc les clichés ont la vie dure.
Oui, oui, c'est certain. Et puis, on a plusieurs études qui montrent un intérêt accru des femmes pour la santé et la nutrition, un intérêt plus accru pour ces thématiques que les hommes. Donc, ça peut expliquer une meilleure application des recommandations.
Ce qu'on découvre aussi, grâce à votre étude, c'est la différence selon l'âge. Seulement 17% des 18-24 ans consomment effectivement 5 fruits et légumes par jour. Là aussi, il y a vraiment une différence très marquée.
Oui, la différence est marquée entre toute la population concernée est adulte et c'est vrai que les plus jeunes consomment moins. Il y a une question de disponibilité et d'accessibilité. L'accessibilité, même si en France on a une bonne offre de fruits et légumes, l'accessibilité, les fruits et légumes coûtent cher, ils ne sont pas abordables pour une population qui a certaines limites financières et qui a peu de temps pour faire les courses. Et l'accessibilité, c'est que on a des distributeurs automatiques, des snacks disponibles et souvent, enfin rarement, ils contiennent des fruits et légumes. Et les jeunes vont aller vers des choses qu'ils peuvent consommer rapidement.
Donc ça veut dire que pour améliorer les choses et pour justement faire en sorte que l'on consomme davantage de fruits et légumes, il faut avoir un prix plus accessible et puis une facilité d'accès, c'est ça ?
Ce sont les... Absolument.
Ouais.
Absolument. Il faut améliorer la disponibilité et l'accessibilité. Et puis, pourquoi pas sensibiliser à prendre une cuisine un peu... pas si compliqué, qui utilise des fruits et légumes. Et à ce sujet-là, on a sur notre site Manger et Bouger, on a toute une fabrique à menu qui aide les personnes à justement cuisiner assez facilement des fruits et des légumes avec des menus variables tous les jours.
Mais est-ce que ça veut dire que ce slogan que je rappelais tout à l'heure sur les 5 fruits et légumes, le chiffre qui reste en tête, il ne marche pas finalement ?
Ben, c'est pas qu'il ne marche pas, c'est une recommandation. Ce que nous souhaitons, c'est pas un dogme strict. Ce que nous souhaitons, c'est aller vers. Donc, commencer avec quelques fruits et légumes, même sans atteindre la cible recommandée, est déjà un pas. Et donc c'est plus ça qu'on souhaite plutôt que 5 fruits et légumes et je compte tous les jours ce que je mange.
Oui, vaut mieux un ou deux que rien du tout, ça si je vous comprends
bien.
Exactement,
c'est absolument vers ça qu'il faut tendre.
Un dernier mot rapidement si vous le voulez bien, peut-être pour rappeler l'importance pour la santé de ces fruits et légumes. Finalement, ça permet de réduire les risques de survenue des maladies.
Oui, absolument. Il y a un lien direct entre la consommation alimentaire de fibres, de vitamines et la survenue de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et les cancers.
Bon, ben voilà, peut-être de quoi convaincre ceux et celles d'entre vous qui vont passer à table. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct dans le 13-14. Mounia El-Yamani, je rappelle que vous êtes responsable de l'unité de santé publique France où a donc été réalisée cette étude. On va maintenant passer à cette question cruciale. Aussi. Vont-ils enfin avoir l'occasion de rejouer une finale de la Ligue des Champions ? De Ligue des Champions, c'est tout l'enjeu pour les Parisiens. Et c'est ce soir qu'il va falloir assurer. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Direct de Londres, où le PSG se déplace pour affronter Arsenal. C'est la demi-finale aller de la compétition européenne avec des Parisiens, on va dire, qui partent pas forcément favoris. Hein.
Oui, effectivement, pas favori, c'est eux-mêmes qui le disent, mais à vrai dire, Arsenal n'est pas favori non plus. En fait, c'est deux équipes qui sont un peu les mêmes sur la ligne de départ, parce qu'en fait, c'est deux équipes qui ont mis le projet collectif au centre vraiment du jeu. C'est plus des équipes de stars, je parle particulièrement pour le Paris Saint-Germain, désormais tout le monde est au service de l'équipe, et ces deux équipes d'ailleurs qui sont moquées, raillées, parce qu'elles n'ont jamais ni l'une ni l'autre soulever cette Ligue des Champions dans leur histoire. L'histoire est plus longue pour Arsenal que le Paris Saint-Germain, qui est un club plus jeune. Mais Arsenal aussi cherche à soulever cette première Ligue des Champions. Vous l'avez dit, Paris a été une fois en finale de Ligue des Champions, mais à l'issue d'une demi-finale qui était en match sec. C'était pendant le Covid et c'était à Lisbonne dans un stade vide. En revanche, Paris, sur ses demi-finales aller-retour dans son histoire, n'a jamais réussi à se qualifier. C'est 6 défaites pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est une étape importante pour le club parisien. Et ce soir, et évidemment, au match retour, avant de penser à la finale, il va falloir être fort dans cette demi-finale. D'autant que Paris n'est pas très en forme en ce moment. Paris a été très bon ces derniers mois. Mais depuis un mois, c'est plus compliqué. Paris est moins fringant. Il va falloir retrouver de la verve ce soir à Arsenal.
Merci beaucoup Xavier Monferrand. On suivra bien sûr tout cela avec vous. Arsenal PSG, c'est donc ce soir à partir de 21h. Un dernier mot pour vous dire qu'Astérix est de retour. Une nouvelle série animée en 3D sera disponible à partir de demain sur la plateforme Netflix. Et si elle est attendue avec une impatience qui dépasse très largement le cercle des fans du Gaulois, c'est parce qu'elle est réalisée par un certain Alain Chabat. 23 ans après son film culte Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, 14 millions de spectateurs et des répliques que beaucoup connaissent par cœur. Va-t-il susciter cette fois le même engouement? En tout cas, Adrien Serrière, le réalisateur, a choisi d'adapter un album majeur de la saga, Le Combat des Chefs, paru en 1966.
Le Combat des Chefs, c'est l'affrontement entre un chef gaulois et un autre gallo-romain, autrement dit, résistance contre collaboration.
Si un chef gallo-romain, un chef gaulois dévoué à la cause de Rome, bat le chef des irréductibles gaulois, il devient chef des deux tribus.
En 1966, la référence historique est particulièrement bien choisie, relate l'universitaire Nicolas Rouvière, grand spécialiste d'Astérix.
Ça correspond à une aspiration du public, à ce que la résistance soit abordée d'une façon un peu plus humoristique, parce que De Gaulle a en quelque sorte créé un mythe collectif qui est celui de la France résistante.
Cet album, tiré à 600 000 exemplaires, 10 fois plus que le Tour de Gaulle un an plus tôt, marque aussi un tournant dans l'écriture de Goscinny et Uderzo.
On commence à voir des éléments de satire sociale. En l'occurrence, c'est la satire de la psychothérapie comportementaliste. Quand ils vont aller chercher un druide pour guérir Panoramix. Et ça, c'est un signe avant-coureur de ce que va être la série dans le après 68.
Ce ton particulier entre références contemporaines et double lecture qui a fait et fait toujours le succès d'Astérix 60 ans plus tard.
Ordre alphabétique, t'es sûr qu'ils sont frais, tes poissons, là?
Tu plaisantes. Je les ai ramassés sur la plage la semaine dernière et j'ai respecté la chaîne du tiède.
Voilà, merci Adrien Serrière. La nouvelle série sortira donc demain sur Netflix dans 190 pays. 13h27 sur France Inter. Restez avec nous, je vous dis un mot de ce qui nous attend dans la prochaine demi-heure. Élodie Calac de Météo France nous parlera des prévisions météo de cet après-midi, de ces prochains jours. Et puis on accueillera nos invités pour parler de la lutte contre les cancers rares et de l'importance des dons pour soutenir la recherche avec le professeur Benjamin Bess de l'Institut Gustave Roussy et avec Mila Saveres, c'est la fille d'Émilie Dequesne qui a succombé le mois dernier à un cancer qui avait choisi de parler ouvertement de sa maladie et de saluer le travail des soignants. Vous pouvez poser vos questions 01 45 24 7000. Notre feuilleton ensuite, deuxième épisode dans cette classe de CM1-CM2 de Condat-sur-Vienne qui participe au concours L'École des Odyssées, concours lancé par France Inter. Sonia Princé a suivi le travail assidu de ses élèves. 13h50, c'est la France. Bonjour Cyril Petit.
Bonjour Céline.
Du quotidien Ouest France, où partons-nous aujourd'hui ensemble?
Eh bien de Trémévin dans les Côtes d'Armor à Altenbach dans le Haut-Rhin, en passant par Saint-Gervasy dans le Puy-de-Dôme, on se demandera pourquoi des boîtes aux lettres postales sont parfois supprimées.
Et bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Céline.
Qui est à votre micro aujourd'hui dans cette une chanson.
Jonathan Capdeviel, il est marionnettiste, comédien, metteur en scène en ce moment à l'affiche du théâtre de l'Atelier dans Sinistre et Festive. Et avec lui, nous écouterons Coming Out d'Alexis HK, une chanson qui lui rappelle son coming out, mais également la très violente agression homophobe dont il a été victime il y a quelques mois.
Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
La météo, avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Prefond.fr.
Et c'est donc l'heure des prévisions avec vous, Élodie Calac, bonjour.
Bonjour à tous.
Et c'est une journée estivale.
Oui, avec des températures qui poursuivent leur hausse. Elles prennent en effet des couleurs estivales. Alors 20 à 22 degrés sur le nord de la Bretagne et le Cotentin, 21 à 23 près de la Méditerranée, mais ailleurs souvent 23 à 26 degrés, même jusqu'à 27 attendus à Paris ou au Mans cet après-midi. Tout ça avec un soleil très généreux. Ça va devenir un peu plus instable sur un quart sud-est. Des nuages vont se développer entre le Limousin, le Massif central, le Jura, les Alpes. Ils pourront donner quelques averses, parfois un orage. Le risque sera plus marqué sur les massifs et sur la Provence. Un orage possible aussi sur le relief corse. Quelques averses pour les Pyrénées. Demain même, tendance avec du soleil. Un risque d'orage qui se limitera au sud du Jura, au Savoie, à la montagne corse. Et des températures encore en hausse. Il fera souvent 25 à 28 degrés. Ça montera encore un peu jeudi, sauf sur la façade ouest où quelques averses seront possibles sous un ciel plus nuageux. Et puis il va faire encore chaud vendredi et samedi. Ça baissera dimanche avec les orages.
Et ben voilà, c'est tout grâce à vous. Merci Élodie Calac de Météo France.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
C'est un baromètre qui montre le souci de l'autre, mais aussi les inquiétudes en matière de pouvoir d'achat. La Fondation des apprentis d'Auteuil publie aujourd'hui son 6e baromètre de la solidarité. On y apprend que 52% des Français ont fait un don l'année dernière à une fondation ou bien à un organisme caritatif. C'est un chiffre stable, mais le montant, lui, est un peu en baisse, 364 euros en moyenne. Et quand il détaille les causes qui leur tiennent à cœur, les donateurs parlent de l'aide aux plus démunis, de la défense des animaux, de l'enfance, mais aussi et surtout à 44% de la santé et de la recherche médicale. Et c'est vrai que c'est un secteur pour qui les dons sont importants, essentiels même, et on va en avoir un exemple très concret avec nos invités. Le professeur Benjamin Besse est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes le directeur de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, situé au sud de Paris, premier centre européen de lutte contre le cancer. Emila Saverez est également avec nous, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre maman, la comédienne Émilie Dequesne, qui est donc décédée le 16 mars dernier d'un cancer rare de la glande surrénale. Alors vous avez décidé, Mila Saverez, je commence par vous, de lancer un appel aux dons lors de ses obsèques. Est-ce que c'était un choix concerté? Est-ce que vous en aviez discuté avec elle?
C'était un souhait de maman, elle était très lucide sur la fin, elle savait que ça approchait et ça fait partie des choses dont elle nous a parlé. Elle nous a dit qu'elle préférait ça que des fleurs. Maman, elle trouvait que de toute façon les fleurs c'est beau, mais ça égaye la pièce quelques jours et puis ça meurt et puis c'est triste et puis ça sert pas à grand chose. Il vaut mieux faire des dons. C'est plus utile pour tout le monde.
Et que l'espoir, il est plus dans l'innovation, dans la recherche. Vous l'avez vécu comment, cet appel au don? Est-ce que c'est un choix que vous avez tous compris, tous soutenus auprès d'elle?
Oui, je pense que pour nous tous, ça a été une bonne chose. On s'est dit que ce qu'on vit, c'est terrible, mais il y a d'autres gens qui vivent des situations tout aussi terribles. Et si on peut au moins trouver une forme de réconfort dans le fait d'aider les gens à travers ce qui nous arrive en ce moment, ben, c'est pour le mieux.
Je crois que c'était aussi important pour elle, vous allez nous le confirmer en tout cas, de remercier le personnel soignant, et notamment de Gustave Roussy,
oui,
où elle a été hospitalisée.
L'équipe est exceptionnelle à Roussy, et en fait, enfin, les soignants font un travail exceptionnel. C'est grâce à eux aussi que quand on est malade, quand on souffre, ça nous permet d'alléger nos souffrances. Sans leur travail, je veux dire, il n'y a personne pour nous administrer les antidouleurs, tout ça. Et c'est un travail extrêmement important qu'ils font. Puis quand ils ont le sourire, qu'ils arrivent, qu'ils rigolent, qu'ils papotent avec les patients, et que c'est exceptionnel. Je sais pas comment ils font, parce qu'on doit s'attacher vachement et de voir des gens partir comme ça, ça doit être très fréquent, ça doit être très dur. Donc j'admire beaucoup ce qu'ils font. Et c'est un travail extrêmement important, un métier qu'il faut qu'on arrête de négliger, je pense.
Et c'est pour ça aussi peut-être que ces dons sont importants, voilà. Pour soutenir évidemment l'innovation, mais aussi dans son ensemble le personnel soignant qui accueille et qui soigne et qui accompagne ces personnes qui sont touchées par les cancers, notamment les cancers rares. J'aimerais qu'on en dise un mot, professeur Benjamin Besse, peut-être d'abord de ce cancer rare dont souffrait Émilie Dequesne, puisque on en a parlé, elle a choisi de le médiatiser, ce cancer rare de la glande surrénale, en deux mots, pour les néophytes que nous sommes, peut-être, en tout cas autour de la table, je le suis, et sans doute parmi nos auditeurs, en quoi ça consiste?
Avant de vous parler des cancers rares, je veux dire que vous trouvez admirable ce que font les soignants de Gustave Roussy et de tous les établissements qui prennent en charge le cancer. Moi, je trouve admirable ce que vous faites et ce que votre maman a fait, parce que c'est vous qui êtes confrontés. Nous, on l'est aussi, mais on est là et c'est le contrat pour accompagner sur un chemin. Vous, c'est un chemin qui est venu percuter le vôtre beaucoup plus violemment que nous, et on est là pour ça, et je suis très heureux si on a pu apporter du confort, des réponses et puis de l'innovation. Les cancers rares, c'est une définition. Vous savez, sur 100 000 personnes en Europe, 300 vont avoir un cancer chaque année. On dit que c'est un cancer rare quand ça va être 6 personnes ou moins. Alors, il y a plus de 300 cancers rares. C'est des entités, et il y en a de plus en plus. Et ça représente plus d'un quart de nos cancers. Donc, c'est à la fois pour une personne, on se sent très isolé, mais à la fois pris collectivement, c'est colossal. Et il faut faire avancer la recherche sur ces cancers rares, il faut faire avancer l'innovation. Alors évidemment, les développements thérapeutiques, ils sont majeurs et ça va à toute vitesse. On a des très belles révolutions en cancérologie sur les traitements ciblés à la carte, l'immunothérapie, mais ces traitements-là vont pas forcément jusqu'au cancer rare, parce que l'intérêt, c'est surtout de développer dans des cancers fréquents pour les industriels, mais il n'y a pas de contrainte pour aller sur les cancers rares, et c'est une grande frustration. C'est là-dessus aussi que l'on s'investit. Il y a des très beaux moyens en France pour aller sur les cancers rares. On a des réseaux extrêmement bien structurés, mais on connaît bien ça avec le cancer de l'enfant. Et les cancers de l'enfant, ce ne sont que des cancers rares, mais il y a une loi européenne qui contraint l'industrie pharmaceutique à développer leurs médicaments, pas seulement dans les cancers fréquents, mais aussi chez l'enfant. Et finalement, il faudrait dire qu'il n'y a pas que l'enfant qui a un cancer rare, il y a aussi beaucoup d'adultes, et il faudrait que ce type de contrainte, pour que l'innovation soit pour tous, soit élargie au cancer rare.
C'est un appel que vous lancez là, peut-être.
Oui, clairement. Clairement.
quand on parle de cancer rare, est-ce que ça veut dire que c'est des choses avec des mots très compliqués, qu'on ne connaît pas forcément, qu'on découvre lorsqu'on en est touché? Ou est-ce que ça peut être des cancers plus courants, cancer du sein, cancer du foie, des choses où on pourrait imaginer qu'on connaît mieux, où il y a des formes peut-être rares?
C'est exactement les deux. Donc, il y a des mots très compliqués sur des organes qu'on a peut-être oubliés, comme la surrénale. Mais il y a aussi, au sein des cancers très fréquents, des sous-entités rares. Mmh. Par exemple, le cancer du poumon, c'est un cancer très fréquent, hein, 40 000 nouveaux diagnostics. Eh bien, au sein des cancers du poumon, il y a des entités qui vont concerner 1% des cancers et eux auront un traitement spécifique. Et finalement, on va dire, j'ai un cancer du poumon autour de soi. On va avoir le regard des autres, qui est celui d'un patient qui a un cancer d'abord, qui a un regard très stigmatisant, puis qui a un cancer du poumon avec un pronostic qui est péjoratif, alors qu'en fait, la sous-entité a peut-être des ressources thérapeutiques qui permettra de vivre beaucoup plus longtemps que ce qu'on attend avec la maladie en général.
Justement, j'aimerais vous demander comment vous l'avez vécu, vous les proches, Mila Savarez. Est-ce que quand on dit cancer, évidemment, j'imagine le choc que ça représente, quand on dit cancer rare, est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu la double peine à ce moment-là?
Je pense que maman l'a vécu comme ça. Moi, pour moi, c'était ma mère est malade. C'est dur, il y a peu de recherche sur ce qu'elle a. Et quoi qu'il arrive, c'est un choc. Je pense que même si ça n'avait pas été rare, on sait qu'il y a des cancers qui sont moins rares, qui sont pourtant tout aussi agressifs et violents. Enfin, je pense pas dire de bêtises. Donc quoi qu'il arrive, pour moi, c'était ma mère est malade. On ne sait pas grand-chose sur comment on va traiter ça et comment on va s'occuper d'elle. C'est de toute façon un choc. Je pense que il faut faire avancer la recherche, c'est extrêmement important pour justement dans ce genre de cas où en plus on ne sait pas trop comment s'y prendre, on a des traitements où on ne sait pas trop s'ils fonctionnent, ils fonctionnent chez certaines personnes et pas chez d'autres. Elle prenait notamment le lisodrène qui est un traitement à prendre tous les jours, au quotidien, et qui ne fonctionne pas chez tout le monde, dont les effets secondaires sont conséquents. C'est sûr qu'on aimerait, dans ces moments-là, se dire on a des pistes de traitement plus solides, mais quoi qu'il arrive, c'est un choc.
Oui, dans tous les cas, il ne s'agit pas de hiérarchiser, bien évidemment.
Non, mais c'est pas. Je pourrais pas me permettre de dire que c'est une double peine, parce que c'est tout autant une peine pour tout le monde, mais c'est vrai que de se dire qu'on se retrouve confronté à quelque chose, on ne sait pas comment le traiter, c'est particulier.
Je voudrais qu'on aille au standard de France Inter, où Nicole voulait partager son expérience aussi avec nous. Bonjour Nicole et bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Paris.
Bonjour. Oui.
Bonjour. On vous écoute.
Alors, ma sœur a été opérée il y a 5 ans d'un cancer de la mâchoire. Donc, je ne sais pas si c'est classé dans les cancers rares parce qu'on n'en parle pas souvent. Elle a eu toute la mâchoire enlevée, reconstruction avec le péroné, et après, elle a eu une radiothérapie, mais qui a eu des conséquences qu'elle a encore maintenant terribles. Donc, je voudrais savoir si il y a des avancées sur les traitements, la détection de ce genre de cancer et les évolutions.
Merci Nicole pour votre question. Professeur Besse, peut-être sur ce point précis.
Alors les cancers de la tête et du cou, ce sont des cancers qui sont fréquents, mais au sein desquels il y a des entités très rares. Mais c'est un cancer qui va être fréquent et vous savez, 40% des cancers peuvent être évités. Il faut d'abord arrêter de fumer, puis arrêter de boire, et puis surveiller son alimentation, ce qu'on mange, etc. Les cancers de la tête et du cou, c'est d'abord l'alcool et le tabac. Et puis, c'est HPV. Et HPV, alors on pense beaucoup au cancer du col, hein, mais il y a un vaccin et qui prévient ces cancers-là. C'est clé de le dire, il n'y a qu'un tiers des jeunes filles, et il faut que les jeunes hommes soient vaccinés aussi, un tiers, alors qu'on peut éviter ces cancers, c'est majeur. Et puis les traitements, c'est des traitements pour guérir, mais qui ont effectivement parfois des séquelles qui sont très importantes. À nous de faire ce qu'on appelle des essais de désescalade, c'est-à-dire de se dire, avec ce traitement, j'ai peut-être guéri la population, mais à quel prix? Est-ce que je peux guérir à moindre coût?
Et si on a un proche, par exemple, comme Nicole, qui est touché par un cancer particulier, on se dit, tiens, je veux soutenir la recherche, je vais faire un don à Gustave Roussy, est-ce qu'on peut le flécher, entre guillemets, pour la recherche contre un type de cancer particulier? Ou bien, c'est une enveloppe globale, c'est vous qui arbitrez.
On fait ce qu'on veut. Et c'est ça que j'apprécie dans la Fondation Gustave Roussy, c'est qu'il y a plein de façons de donner. Il n'y a pas de petits dons, c'est vraiment quelque chose de très important. Un tiers de ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on appelle des petits dons. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de petits dons.
Si tout le monde donnait un euro, on irait très très vite, très très loin en fait.
Et donc, on a des programmes où on peut donner moins de 10 euros par mois, mais c'est comme un abonnement pour, une plateforme vidéo par exemple. Mais on va donner et on va aller donner un programme et tous les ans, on sera invité par les chercheurs, le clinicien, à passer une journée à Gustave Roussy et dire voilà ce qu'on fait de votre argent. Voilà les machines qu'on a achetées, voilà les chercheurs sont là. C'est un samedi, on passe du temps, on passe notre samedi avec nos parrains, on les appelle comme ça. Voilà, c'est une façon de donner à Gustave Roussy. Il y en a plein d'autres, mais ce qui est très important, c'est que si on a une maladie rare et qu'on veut lever de l'argent pour cette maladie rare, on peut le faire.
Une question qui nous est posée sur l'appli France Inter de la part d'une auditrice. Est-ce que la recherche a besoin de dons car l'État fait des économies sur les budgets alloués?
Oui, l'État fait des économies à plein de niveaux et également sur la recherche. Et la générosité, elle permet, j'allais pas dire de pallier, parce qu'on est quand même soutenu hein, par rapport à d'autres pays, elle permet de compléter et d'innover beaucoup plus fort. C'est pas seulement pour rechercher, hein, c'est aussi pour mieux traiter. On peut acheter des robots, des équipements de pointe. Mais oui, la générosité, elle est essentielle pour aller plus vite et espérer un jour guérir cette maladie.
J'aimerais qu'on aille au standard de France Inter où nous attend Manuel. Non, Manuel n'est pas encore là, mais on le retrouvera tout à l'heure. Je peux peut-être vous poser sa question, parce qu'il nous l'a soumise, évidemment, lorsqu'il a téléphoné au standard de France Inter. Il y a de plus en plus de jeunes patients. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut donner pour la recherche, pour soutenir des cancers qui touchent des personnes de plus en plus jeunes? Évidemment, Émilie Dequesne en a été un exemple frappant pour nous tous. Cette recherche, elle peut aller dans ce sens-là.
Bien sûr, il y a des cancers qui effectivement apparaissent plus tôt. Il y a peu de cancers dont l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, augmente. Il y a par exemple le cancer du pancréas qu'on peut trouver chez le jeune, pour lequel on n'a pas de cause encore claire. Est-ce que c'est lié à notre alimentation? Est-ce que c'est les microplastiques? On ne sait pas encore, mais oui. Et si on veut donner pour ce type de cancer ou un autre, on peut tout à fait. Ce qui est important, c'est de dire que pour les cancers qui sont plus rares, on a en France l'Institut National du Cancer qui a lancé, il y a environ 15 ans, une campagne pour créer 17 réseaux. Et le but de ces réseaux, c'est que tout le monde soit traité de la même façon, que ça désisole, ça désenclave un patient qui va être le seul patient de son oncologue à avoir cette maladie rare. Bah, son oncologue pourra aller le discuter dans des staffs qui sont nationaux, où il y aura tous les experts, et dire ce traitement-là, vous pouvez le faire. Ou ce traitement-là, c'est pas possible, il faut référer le patient à un centre expert. Cette notion de centre expert est essentielle en particulier pour la chirurgie. À un moment, il faudra probablement qu'il y ait des décisions courageuses pour dire que peut-être tous les chirurgiens ne peuvent pas opérer tous les cancers et que sur certains cancers rares, on ait des centres d'expertise pour être sûr de bien faire les choses.
On a parlé de l'âge de votre maman, Mila Saverès, parce que c'est aussi ça qui a provoqué un choc chez beaucoup de ceux qui l'ont suivie au cinéma. Elle était à l'aube de la quarantaine. Sa célébrité également a fait qu'on a beaucoup parlé de sa maladie parce qu'elle avait choisi de le faire. Et je pense que c'est important aussi. Pourquoi avait-elle décidé de médiatiser son cancer, elle l'aurait pu ne pas le faire.
Alors c'est vrai qu'au début ça fait peur. Au début elle se dit, si j'en parle maintenant, on ne va plus jamais me laisser tourner, on ne va plus jamais m'assurer. Et puis si on en parle, on doit passer en arrêt maladie, ce qui n'est vraiment rien.
Rien.
Quand on est intermittent. Alors je pense que même quand on n'est pas intermittent, hein, comme c'est plafonné, il y a des gens qui voient leur vie complètement chamboulée. En ce sens-là, c'est une double peine de tomber malade. On n'est pas très bien pris en charge. Ceci dit, c'était important pour elle parce qu'elle se disait justement de pouvoir me servir de ma notoriété, d'être dans l'œil public pour en parler. Peut-être que ça va faire en sorte que des gens se sentiront moins seuls. Peut-être qu'en effet, on pourra faire avancer la recherche. Et c'était important pour elle d'utiliser ses réseaux un peu comme un journal de bord, quelque part.
Et elle a reçu du soutien de la part justement du monde du cinéma. Vous dites que les indemnités n'ont pas été très importantes, visiblement. Mais est-ce qu'elle a reçu au moins, en tout cas, les encouragements de son milieu ?
Des encouragements, beaucoup. On a énormément de personnes qui sont présentes. C'est là où on a eu beaucoup de chance, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de vous donner des chiffres exacts. Je ne les ai plus exactement en tête, mais c'est vrai que on est sur du 20 à 30 euros brut, 30 brut et je crois dans la vingtaine net par jour. Donc c'est peu. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient leur vie être chamboulée. S'ils n'ont pas le soutien que nous, on a eu, bah, ils ne s'en sortent pas. Quoi.
Oui, la question de l'accompagnement, c'est aussi une question évidemment essentielle quand on est focalisé sur notre guérison. Une question qui nous vient de Jean-Pierre, qui nous a appelé de l'Essonne. Professeur Besse, pourquoi les cancers rares deviennent de plus en plus fréquents ? Est-ce que c'est le cas d'ailleurs ?
Alors d'abord, je redis, hein, quel courage. Je trouve que c'est quand même admirable, hein, surtout avec le risque qu'elle prend sur son métier et avec le peu d'indemnité. Mais c'est vraiment admirable. Et on en a beaucoup, des gens jeunes qui disent « j'ai un cancer » et qui le portent vers les autres et qui l'assument. Et ça aide à assumer. Je pense que c'est... Enfin, je trouve son geste incroyable. Oui, il y a de plus en plus de cancers rares parce qu'au sein des cancers fréquents, c'est ce que je disais, on découpe ces cancers fréquents en maladies rares, parce que voilà, il va y avoir un cancer du sein avec une anomalie rarissime. Alors, c'est dans la case cancer du sein, mais en fait, c'est une maladie rare parce qu'elle a cette anomalie sur un gène, par exemple.
Pour faire des dons ?
Pour faire des dons, moi je travaille à Gustave Roussy, qui est une maison que j'aime.
On va parler de Gustave Roussy, évidemment, il y en a d'autres.
Et à laquelle j'ai une grande fidélité et qui me permet de faire beaucoup de recherches grâce à la générosité. Donc on peut donner en allant sur le site de Gustave Roussy, bien sûr.
Mais... soutenir.gustave.roussy.fr.
Par exemple.
Mais il y a bien d'autres, évidemment, occasions et manières de soutenir cette recherche qui est très importante et on l'a compris grâce à vous. Merci à tous les deux, Mila Saverès, d'être venue nous parler de votre maman, Émilie Dequesne, professeur Benjamin Besse.
Pardon, un dernier mot à dire. Je voulais juste, pour les personnes potentiellement malades qui nous écoutent, courage. Prenez au mieux soin de vous et vous n'êtes pas responsable de peu importe ce qui peut arriver. Parce que c'est vrai que maman avait très peur de ça. Elle nous disait... On n'arrête pas de me dire « Oh, t'es une guerrière, t'es forte, tu te bats bien ». Et elle nous disait « Mais si je ne guéris pas, ce sera de ma faute ». Et je trouve que c'est un discours qui est très culpabilisant. J'aimerais que tout le monde arrive à se détacher de ce discours. Si vous trouvez de la force là-dedans, c'est génial. Mais ça ne correspond pas à tout le monde. Donc voilà, courage, et ce ne sera pas de votre faute. Et voilà.
Je vois professeur Besse qui acquiesce. Effectivement,
voilà, on prend un chemin. On ne fait pas seulement une guerre.
Voilà. L'appel est passé. Vous avez bien eu raison de revenir sur ces termes qui sont très importants et sur l'accompagnement nécessaire. Merci beaucoup d'être passé par le 13-14 de France Inter.
Au revoir.
Et notre feuilleton maintenant nous emmène dans une classe de Haute-Vienne, à l'école Jean Rostand de Condat-sur-Vienne, où les élèves de CM1, CM2 participent au concours de l'école des Odyssées, organisé par France Inter. Ils doivent raconter la vie d'un personnage historique dans un podcast. Et pour cela, il faut choisir son héros ou bien son héroïne. Cela signifie des débats et même un vote. Sonia Prince y a assisté.
Louis XIV, LeBron James, Galilée, Jean Rebier. Alors Jean Rebier, ça c'est un personnage qui n'est sans doute pas très connu parce que c'est le nom du collège dans lequel les enfants vont aller l'année prochaine. Jean Rostand, ça c'est le nom de notre école. Léonard de Vinci, Georges Brassens, Louis Braille, Gustave Eiffel. Et on a quand même quelques femmes, mais pas beaucoup. Rosa Parks, Malala, Marie-Antoinette. Voilà, sachant que la consigne pour les projets Odyssée, c'est de choisir un personnage réel, humain, connu ou inconnu, que l'on a très envie de faire connaître ou de mieux connaître.
Je m'appelle Soazic Koberlé et je suis enseignante en classe de CM1, CM2 à l'école de Condat-sur-Vienne.
On a déjà un peu commencé mardi et là ils ont écrit une phrase d'argumentation ou deux et maintenant on vous attendait aussi pour faire l'échange par rapport à ça. Et ensuite on fera un petit vote. Le fait de passer par l'écrit, ça permet aux enfants qui participent un peu moins de quand même réfléchir à leurs arguments et de formaliser les choses. Voilà. Là, parfois la prise de parole est plus facile après. Aileen, tu veux commencer ?
J'aimerais que l'on choisisse Pablo Picasso parce que c'est un peintre, il est mort dans les années 1000.
C'est pas tout à fait les années 1000, hein, quand même. Quelqu'un d'autre ? Louis ?
J'aimerais qu'on choisisse Michael Jordan parce qu'il a marqué l'histoire du basket et aussi parce que j'adore le basket.
Bah moi je m'appelle Lina et j'aimerais qu'on choisisse Louis Braille parce que l'histoire de Louis Braille m'a touchée. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur sa maladie, ce qui lui est arrivé. Il n'a pas eu de chance dans un peu toute sa vie, c'est triste, mais il a réussi à s'en sortir.
Je m'appelle Tim et j'aimerais qu'on choisisse Louis Braille parce que il a une histoire hallucinante et il a été handicapé par accident et il a beaucoup de courage.
Et toi, tu le connaissais, ce personnage, avant ?
Non, on m'a fait découvrir dans cette classe grâce à ma maîtresse.
En fait, je m'appelle Lisa. Au départ, la maîtresse, elle avait trouvé dans un peu les archives de l'école une pile de livres sur Louis Braille. On les a lus.
Tu peux me redire le titre du livre ?
C'est Louis Braille, enfant de la nuit de Margaret Davidson.
Et donc vous l'avez tous lu ce livre ?
Oui, on l'a tous lu avec la maîtresse. Et après, c'est venu, elle nous a raconté le projet Odyssée, le but. Et j'ai proposé qu'on puisse voter pour Louis Braille car on avait lu son livre et il nous avait passionnés. Alors on avait envie qu'il passionne d'autres gens.
Alors maintenant, on va peut-être pouvoir passer au vote. Ok, alors fermez vos cahiers. C'est bon, vous avez réfléchi ? Alors attention, on commence. Qui vote pour Louis Braille ? 12-13, il y a déjà un grand succès pour Louis Braille. Gustave Eiffel, 2, ok. Leonardo DiCaprio, ok. Mike Tyson, 1. Et Rosa Parks, 5. Eh bien bravo, Louis Braille est élu. Vous pouvez noter ça sur votre cahier projet.
Ce cahier, c'est la maîtresse qui nous l'a distribué il n'y a pas très longtemps. Là, par exemple, on a les étapes de création, le texte d'explication.
Là, en dessous, vous sautez une ligne et puis vous écrivez.
Suite demain de notre feuilleton signé Sonia Princé.
France Inter. Le 13-14.
13h52, c'est la France avec vous, Cyril Petit du quotidien Ouest France. Et aujourd'hui, petites histoires de boîtes aux lettres supprimées.
Et je vous emmène, Céline, à Trémévin. Une disparition a récemment surpris et agacé des riverains dans ce village des Côtes d'Armor. Cette disparition, c'est celle d'une boîte aux lettres postales. Un habitant témoigne dans Ouest France. C'est la fin d'un service public à proximité. Il faut désormais se déplacer jusqu'à la boîte dans le bourg. Et c'est à 2 km, complète le maire qui ne cache pas sa colère. Cette décision est incompréhensible. Alors pour lui, cette boîte faisait partie du quotidien et représentait bien plus qu'un équipement postal. Elle était un service de proximité, un lien essentiel notamment pour les personnes âgées et ceux qui ne disposent pas de moyens de transport. Alors de son côté, la Poste indique qu'un service de récupération du courrier à domicile est à l'étude et que les personnes qui souhaitent confier une lettre à leur facteur peuvent le faire ponctuellement.
Et cette commune, Cyril, n'est pas la seule à avoir disparu de sa boîte aux lettres.
Non, depuis début février, des suppressions ont lieu dans plusieurs villes et village, par exemple à Altenbach dans le Haut-Rhin ou à Saint-Gervasi dans le Puy-de-Dôme, mais il en reste 122 000 en France collectées 6 jours sur 7. Alors sur westfrance.fr, vous pouvez découvrir même le nombre de boîtes aux lettres dans votre commune. Quelle que soit sa taille, chacune, y compris en zone rurale, dispose au moins d'un équipement, précise la Poste. Alors en moyenne, en France, on compte une boîte aux lettres pour 560 habitants, mais avec de fortes disparités. Le département le mieux loti est la Lozère, avec une boîte pour 111 habitants. Au contraire, les territoires les moins couverts sont situés en Outre-mer. La Guyane compte seulement une boîte aux lettres pour 6465 habitants.
Alors pourquoi elles disparaissent, ces boîtes aux lettres ?
Eh bien Céline, principalement parce qu'on envoie moins de courriers, hein, beaucoup moins même. Hein. En 2023, 6 milliards de plis ont été distribués, c'est 3 fois moins qu'en 2008 et la baisse continue, la Poste en prévoit 3 milliards en 2030. Alors en moyenne, 2,7 plis, c'est précis, sont déposés quotidiennement dans chaque boîte aux lettres en France, mais avec de fortes disparités, certaines restant vides plusieurs jours. Autres éléments étudiés avant de les enlever, l'évolution de l'urbanisme, de la démographie, l'accessibilité des boîtes ou encore leur état. En tout cas, des suppressions vont s'échelonner jusqu'à fin 2026 en concertation avec les élus, promet La Poste.
N'empêche que ces objets, ils font partie de notre quotidien.
Hein. Et oui, toucher aux boîtes aux lettres suscite toujours beaucoup de réactions et d'émotions, car les faire disparaître crée un sentiment d'abandon. Même quand on s'en sert peu, elles font partie du patrimoine. Un attachement résumé par Magali en Seine-Maritime. Je ne souhaite pas leur disparition, même si je ne les utilise qu'une à deux fois par an.
Et que deviennent les boîtes aux lettres réformées ?
Eh bien, elles sont détruites ou recyclées, précise La Poste, qui ne les revend pas. Alors, on en trouve bien quelques exemplaires sur des plateformes de petites annonces, mais elles sont très rares et donc très chères. Notons que ces boîtes aux lettres historiques sont parfois marron, bleu ou verte, car ce n'est que depuis 1962 qu'elles sont jaunes.
Merci Cyril Petit du quotidien Ouest France. De C'est la France à C'est une chanson, et votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est à la fois comédien et metteur en scène. Il s'appelle Jonathan Capdevielle.
On peut le voir en ce moment au Théâtre de l'Atelier à Paris, dans Sinistre et Festive. Un tour de chant mélancolique et foutraque qu'il donne avec l'artiste Jean-Luc Vernat, perruqué, maquillé, collant résille, robes à paillettes. Il passe de Brel à Dalida, Guy Marchand et Lady Gaga, ou encore Alexis Hachka avec sa chanson Coming Out.
Le coming out, bon, moi j'ai dû faire le mien, par exemple. Et ce que je trouve assez beau dans la chanson d'Alexis Hachka, c'est cette préparation pour aller leur dire cette chose à la famille, quoi. Leur dire cette chose importante qui est de l'ordre de l'identité et d'un besoin d'un coup de se libérer, quoi. Parce que ça peut devenir un carcan dans certaines familles et ça peut être très violent, quoi.
Vous n'avez pas été rejeté ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Ma mère m'a vu avec un garçon un jour et puis j'ai vu dans son œil qu'elle avait saisi cette relation que je pouvais avoir avec lui. Mais bon, mon père, je lui ai souvent dit, il bottait souvent en touche.
Il ne posait pas davantage de questions.
Ah non, du tout. Et c'est une chanson qui rend hommage à toutes ces personnes qui prennent la décision forte, à un moment donné, de s'assumer, d'en parler. Et voilà, c'est un combat permanent.
J'aurais dû prévoir qu'il ferait un peu chaud pour mettre des bas noirs et mon long manteau de biche. Ma jupette étroite, ma démarche est bizarre, on dirait que je suis nominé pour les Césars. Je me suis fait belle, belle, belle pour aller les voir. Je remercie toute l'équipe de la gare Saint-Lazare, gentils machinistes aux doux accents du Gard qui m'ont permis de prendre le train du mois d'août. Je m'en vais déverser les flots de mon coming out.
C'est en 2004, Frédéric, est sorti ce titre d'Alexis Hachka.
Oui, sur l'homme du moment, son troisième album. Et dans cette chanson, un passage touche particulièrement Jonathan Capdevielle.
Il y a un moment dans la chanson où trois hommes impulsifs aux manières de barbares se sont saisis de ma personne et de mes doutes. Eh bien ça m'est arrivé il y a un an et demi maintenant, en traversant un parc parisien, en étant avec du rouge à lèvres, un peu de vernis, comme cette demoiselle du début de la chanson. Et ils me sont tombés dessus, quoi, vraiment, fortement. Je peux dire que j'ai goûté à un moment donné un petit peu à la mort, quoi. Voilà. C'est pour ça que cette chanson me parle beaucoup.
Ils vous ont frappé ?
Ah, plus que frappé, ouais. Bah, ils m'ont vraiment cassé, quoi. Vraiment. Moralement, physiquement aussi.
Vous disiez que vous étiez maquillé, vous étiez habillé en femme également ?
Ouais, j'étais travesti, ouais. Et je me doutais pas, à cette période-là, que ça pouvait me tomber dessus, mais surtout, c'est l'acharnement. Je me suis dit, quand même, s'acharner comme ça sur une personne, bon, pourquoi ?
Je n'avais pas vu les gros bras qui me guettent et font à mon propos des boutades de braguettes. Je me suis fait belle, belle, belle.
Vous pensez qu'ils étaient prêts à vous tuer ?
Ah oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, je pense, ouais. Donc, ça n'est jamais fini, finalement. On croyait à un moment donné que d'être homosexuel, c'était plus simple qu'avant. Ben, moi, je pense pas, quoi. Je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup de résistance et des gens qui sont contre ça, quoi. Et ça peut donner ce qui m'est arrivé, par exemple, voilà, comme conséquence. Donc, oui, il faut continuer à se battre, quoi, et à résister.
Trois hommes impulsifs, aux manières de barbares, se sont saisis de ma personne et de mes doutes, et m'ont épargné du chaos de mon coming out. J'aurais dû prévoir qu'il ferait un peu chaud pour mettre des bas noirs et mon long manteau de biche.
Cette chanson, qu'est-ce qui vous l'a fait découvrir ?
Ben, c'est moi, chercher une chanson sur la thématique du coming out, et puis voilà, je suis tombé sur cette chanson-là, et voilà, maintenant elle est avec moi, quoi, elle m'accompagne. Elle va m'accompagner longtemps, je pense.
Est-ce qu'elle a un pouvoir un peu consolateur ?
Elle m'apaise aussi, quand je l'interprète, en tout cas.
Quand vous la chantez sur scène ?
Ouais, ouais. Elle me fait du bien.
Belle, belle, bonne, pour aller les voir, je me suis fait.
Alexis Hachka, c'était donc Frédéric, le choix du comédien metteur en scène Jonathan Capdevielle.
Jonathan Capdevielle que vous pouvez retrouver dans le Tour de chant sinistre et festive, c'était au théâtre de l'Atelier à Paris.
Merci Frédéric Pommier, je suis perturbé par les bips et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Céline Asselot.
Quel est le programme de la Terre au Carré ?
À qui profitent les terres agricoles en France ? Ce sera le dossier dans un instant.
A tout de suite.